Voilà, comme on entend la cloche, bah ça doit être 8
Ouais.
heures en fait, je pense, parce que la cloche de Saint-Eustache est bien réglée, je pense. Donc, ça fait plaisir de se retrouver à quelques-uns, donc le petit reste, souvent on parle dans la Bible du petit reste, hein, qui est l'élite qui est gardée pour la vie éternelle ou pour rebâtir tout un peuple. Ben voilà, donc c'est ça, parce que c'est vrai que. Donc il y a une partie de Saint-Eustache qui est partie vers Tours pour une retraite. Donc ils ont pris un quart cet après-midi et c'est pour ça que bon, il y a peut-être pas mal d'absents, mais en particulier le père Prigent donc est parti donc avec cette retraite, accompagner cette retraite. Donc ben, on pense à eux et on va être donc œcuménique ensemble en fait, hein, voilà, avec ce que pourront dire les uns et les autres. Alors pour ce jour, on a choisi, avec Jérôme en fait, on a choisi de lire au chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, bah pour aller voilà, avec cette semaine qui annonce la Pentecôte en fait, puisque l'ascension est demain. Et donc le livre des Actes des Apôtres, bah c'est la suite de l'évangile selon Luc bien sûr, puisque le livre des Actes des Apôtres, il commence en disant que c'est la suite du premier livre, et ce livre des Actes des Apôtres est adressé à Théophile. Et l'évangile, selon Luc, commence pareil finalement. Donc c'est effectivement la suite de l'évangile selon Luc, du même auteur. Et ben, c'est quand même c'est touchant parce que Luc finalement, il n'a pas connu les événements qu'il raconte, mais il s'est bien renseigné. Et il témoigne. Au milieu du livre des Actes, il y a un changement de ton. Il passe du début, en fait, où il témoigne de ce qu'il a entendu dire, et puis ensuite il se met à parler à la première personne de ce qu'il a pu vivre, donc en particulier avec l'apôtre Paul. Mais là, donc, peut-être il faut lire d'abord un peu plus haut, finalement, juste après l'ascension. Bon, alors je pense qu'aussi bien à l'oratoire demain matin qu'à Saint-Eustache demain matin, il y a un office pour l'ascension où on lit en particulier le début du livre des Actes avec Jésus qui donne un peu la mission d'attendre l'Esprit-Saint. Et bonsoir. Ah, il y a une petite feuille qui est sur la chaise. Il y a une petite feuille sur la chaise. Voilà. Et donc finalement, on voit donc. Au chapitre 1, au verset 12, on les voit qui sont là. Donc, suivant ce que Jésus leur a dit, bon, c'est pas sur la feuille, c'est un peu avant. Donc, ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Shabbat. Et quand ils furent rentrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, fils de Jacques. Donc ça, c'est les 11 apôtres qui restent, parce que Judas a été disqualifié, finalement, ou s'est disqualifié lui-même, je ne sais pas. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Donc ça, c'est un peu l'attente de l'Esprit Saint qui va être racontée au chapitre 2. Ensuite, il nomme un 12e apôtre en remplacement de Judas qui sera Matthias. Alors, il choisit cet apôtre. Il y avait à peu près 120 personnes qui sont réunies et donc ils choisissent ensemble un apôtre en remplacement. Et puis ensuite, eh bien, on arrive donc à ce chapitre 2. Donc peut-être on peut prendre la première partie, donc chapitre 2 jusqu'au verset 13. Donc c'est vraiment le récit même de la Pentecôte. Alors il y en a quelqu'un qui veut nous le lire ou est-ce que moi... Ah oui, merci, super, sympa.
Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut tout tremblée. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or à Jérusalem résidaient des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient « Tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ?» Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici, tous tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Ils étaient tous déconcertés et dans leur perplexité, ils se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela veut dire ?» D'autres s'esclaffaient, ils sont pleins de vanité.
Voilà. Alors le jour de la Pentecôte arriva, la Pentecôte c'était déjà une fête, c'est encore une fête juive, donc il en est question dans le livre du Lévitique. Donc c'était à l'origine, avant même de devenir une fête religieuse, parce que pour les juifs aujourd'hui c'est la fête du don de la Torah, c'est-à-dire qu'ils célèbrent quand Moïse a reçu le décalogue sur la montagne avec plein de fumée, et puis il reste 40 jours sur la montagne. Donc évidemment ça fait un peu référence aussi à l'ascension, vous voyez, il y a 40 jours entre la mort de Jésus et puis l'ascension, et puis encore 10 jours. Alors c'est vrai que tous ces nombres, c'est des nombres symboliques, et donc quand on dit 40 jours pour l'ascension, il ne s'agit pas de compter ça littéralement. Vous savez, quand il y a des chiffres ronds dans la Bible, ça n'exprime pas une quantité, mais ça exprime une qualité, ça exprime du sens. Donc dire qu'il y a 40 jours, par exemple, entre Pâques et l'Ascension, bon, nous, pour nos fêtes, bien sûr, on suit les 40 jours, mais ça veut surtout dire, dans ce texte, ça veut dire le sens, finalement, de cet écart entre Pâques et l'Ascension. Ça veut dire que cette période de 40 jours, elle est un peu comme une période de gestation, une période d'attente, une période de cheminement. Et ça, toujours, le chiffre 40, pour une durée, exprime toujours ça dans la Bible. Alors, il y a pas mal d'exemples de cela. Il y a, par exemple, les 40 jours du déluge de pluie. C'est un moment où Noé attend sur son bateau que ça se calme. Il y a les 40 jours de Moïse sur le mont Sinaï, le montagne, pour recevoir le décalogue. Donc c'est un temps de maturation, finalement, de ce texte. Parce que Dieu aurait aussi bien pu, si on suit le récit, il aurait pu lui envoyer les tables directement, et il n'y a pas besoin d'attendre 40 jours. Si, c'est un temps de maturation pour Moïse. Et il y a des tas d'autres exemples, mais l'exemple effectivement le plus connu, c'est les 40 jours de Jésus dans le désert où il est tenté. Là non plus, ce n'est pas un temps, si vous voulez, de production, ou plutôt c'est un temps de production de lui-même, où il met en ordre dans son être son expérience passée du baptême, de cette voix du ciel qui lui dit « Tu es mon enfant bien-aimé, mon fils bien-aimé ». Et donc il y a un temps de maturation de cela, et puis de mise en ordre de son être. Donc finalement ces 40 jours, ça exprime un temps de maturation pour les apôtres, et ensuite 10 de plus, on arrive à 50, et le chiffre de 50 est encore un chiffre rond, ça exprime effectivement la loi, la Torah, vous savez, les 5 livres de la loi, les 10 paroles, et puis ça exprime donc, ça exprime le temps de, j'allais dire la bonne conduite mise par écrit, finalement, voilà, c'est ça, le 50. Et donc la Pentecôte, c'était la fête, c'est encore la fête pour les Juifs du don de la Torah, mais c'était à l'origine un peu une fête agricole, c'était la fête des... C'est expliqué dans le Lévitique, c'est la première gerbe que l'on peut moissonner dans le premier champ, ils en faisaient une gerbe et il y avait un peu une cérémonie autour de l'autel où ils promenaient, ils penchaient la gerbe et ils faisaient un sacrifice. Et puis 50 jours après, il faisait un peu une fête aussi de la fin des moissons, finalement. Là, c'était des pains qu'il venait agiter, et puis il y avait encore des sacrifices. Donc vous voyez, Pâques est devenu, qui était la fête donc, de la première gerbe moissonnée, c'est devenu la fête de la vie, la fête de la sortie d'Égypte, la fête d'une vie qui commence, et puis... l'ascension, ou plutôt la Pentecôte, 50 jours après, ça devient la fête du don de la Torah, c'est-à-dire vraiment du pain qui est donné et qu'on va pouvoir manger pour nous nourrir. Donc vous voyez, la symbolique, elle est importante parce qu'on la retrouve dans notre Pâques à nous et dans notre Pentecôte. On la retrouve aussi dans le repas de la communion où on partage le pain. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que ce qui est donné en Christ, c'est comme la première gerbe qui a été moissonnée et qui annonce toutes les moissons suivantes, c'est-à-dire notre vie à nous qui va être, qui est recueillie, qui est prise par Dieu pour en former du bon pain, pour former la vie éternelle. Alors c'est toute cette thématique qui est comprise là-dedans, dans l'idée de Pentecôte. Et effectivement, si la Pentecôte célèbre le don de la Torah, on voit bien la thématique qui est ici, c'est-à-dire que les apôtres et les femmes qui étaient avec, ils vont recevoir l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, on pourrait dire autrement, la parole, en fait la parole de Dieu, c'est la même chose. C'est deux images pour dire la même chose. C'est-à-dire c'est la source de la nouveauté qui vient de Dieu, qui est donnée à ces personnes qui sont réunies. Et ça les donne d'être, alors on va le voir dans la suite, ça leur donne d'être des prophètes et des prophétesses. Mais ça leur donne même, si on prend cette thématique, ça leur donne même d'être des Moïse, hein, des nouveaux Moïse. C'est-à-dire qu'à la limite, le prophète, c'est pour son temps, alors que Moïse, c'est pour toutes les générations. Et donc c'est ça qui nous est promis. Au cours du baptême chrétien, baptême des enfants, par exemple, ou des adultes, on pourra parler de cette question un peu après, parce qu'il en est question, mais on répète aussi bien dans la liturgie catholique que dans la liturgie protestante qu'on est fait prêtre, prophète et roi. C'est ce à quoi on est appelé, parce que c'est le triple ministère du Messie, du Christ en fait. D'être prêtre, c'est-à-dire d'être digne de prier Dieu directement, prophète digne de recevoir par l'esprit un peu le point de vue de Dieu sur le monde, sur la réalité, sur ce qu'on vit, sur ce qu'on est, sur ce qui vaut la peine. Et puis roi digne d'agir et de transformer le monde. Donc ici, il y a même un peu plus que ça, parce que vous voyez, on est promis d'être prophète, c'est vrai, par l'Esprit Saint, mais avec cette thématique de la Pentecôte, et dans le discours de Pierre, on le verra un peu plus loin, avec l'annonce de des colonnes de feu, des fumées, des choses comme ça, on est effectivement sur la montagne sacrée où Moïse reçoit au milieu de la fumée, du feu, il reçoit directement les tables de la loi. Donc c'est quelque chose d'immense qui nous est promis, ou même qui nous est donné en fait, selon ce texte. Voilà. Alors, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Alors c'est vrai que ça peut poser un petit peu une question parce que c'est à la fois bien vu et mal vu dans le récit de Babel, parce qu'en fait c'est un écho au récit de Babel, parce que le récit de Babel, vous connaissez l'histoire, c'est dans Genèse 9. Il y a l'idée au début du texte qu'ils sont tous unis ensemble. C'est Genèse 11, attendez que je vérifie quand même, pas vous dire de bêtises. Hein. Enfin bon, c'est par là en tout cas. Tout d'un coup, j'ai un doute. Hein. Non, c'est Genèse 11, hein. Je pense. Hein. C'est Genèse 11. Genèse 11, ils sont tous unis ensemble et ils font tous une seule idée, une seule pensée, un seul cœur. Et finalement, c'est quand même plutôt ça qui est mal vu, j'ai l'impression, dans le récit de Babel, c'est qu'il y ait comme ça une pensée unique. Et c'est ça que Dieu va venir éventuellement, peut-être, troubler en arrêtant la construction de la ville de Babel. Et alors, ici, ils sont tous unis, ils ont finalement un seul cœur, une seule prière presque, hein. On l'avait vu, ils priaient sans arrêt ensemble, et ils vont être donnés de parler la langue des autres, alors qu'à Babel, le résultat, c'est qu'ils vont être dispersés et qu'ils ne peuvent plus se comprendre entre eux. Donc ici, dans la Pentecôte, Il y a quelque chose un peu d'un anti-Babel, si vous voulez. Ou plutôt, peut-être qu'il y a quelque chose d'un bon Babel, en fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent être tous réunis ensemble sans que les individus soient gommés, soient niés, soient anéantis. Alors que dans Babel, on a l'impression que c'était la pensée unique. Ils étaient tous des clones les uns des autres. Ce qui n'est pas une bonne façon d'être unis, finalement. Et puisque ici, on est donc attaché à l'œcuménisme, l'œcuménisme dans le respect donc des différentes sensibilités, en fait, pas à l'idée qu'on en soit tous des clones avec exactement la même liturgie, la même façon de vivre sa foi, ou la même théologie exactement. Il y a quelque chose là qui nous est proposé, je pense. Il y a quand même l'idée qu'ils se trouvent réunis tous ensemble, mais il reste cette diversité de pensée, de langue même, puisque les langues, elles restent finalement, mais on l'a entendu dans ce qui nous a été lu, quand quelqu'un parle dans sa propre langue, ceux qui sont de langues différentes comprennent. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a une seule langue en définitive, c'est-à-dire que tout le monde parle la même langue, mais bien que parlant des langues différentes, on arrive à se comprendre. Et c'est ça qui est sympathique, je trouve. C'est cette diversité qui n'est pas, à ce moment-là, ni la négation des individus particuliers, ni non plus la négation, ni une dispute, finalement. Voilà. Donc c'est ça qui est assez bien vu, je crois, dans ce texte, en référence à Babel, en référence à ce mythe de Babel. Alors la question qu'on peut se poser aussi, c'est si on n'est pas réunis tous ensemble, est-ce qu'on peut recevoir l'Esprit Saint ? Alors ça, effectivement, c'est quelque chose qui est très discuté dans la question autour, dans la lecture de ce texte. Il semblerait, donc dans ce texte, c'est pas évident, parce que finalement, il est dit que c'est parce qu'ils étaient en étant réunis qu'ils vont recevoir. Et l'idée de réunion, elle est même doublée, hein, réunis tous ensemble, donc il y a insistance. Mais il y a d'autres endroits, en fait, où des gens reçoivent l'Esprit Saint et où ils n'étaient pas réunis. Alors on pense particulier à l'apôtre Paul, il s'appelait Saul à ce moment-là, Saül. Il était tout seul sur son chemin de Damas et puis il va être en contact avec Jésus-Christ et il va vivre finalement la résurrection et la Pentecôte, en fait, d'un seul coup, pour lui tout seul. Donc il y a d'autres cas finalement, ou bien par exemple la famille de Corneille, il y a une famille la famille c'est une famille élargie, c'est toute la famille, les différentes générations, et puis les servantes et les serviteurs sont tous là réunis, et puis il y a Pierre qui est donc invité par l'Esprit à aller les rencontrer, et toute la famille reçoit l'Esprit Saint. Bon, là c'est une famille qui est réunie, mais bon, vous voyez, ils ne sont pas obligés de venir... en assemblée, comme là, finalement, c'est à domicile presque, voilà. Donc, il y a différents chemins, j'allais dire, hein. Ça peut être différentes façons, mais quand même, ici, l'idée, dans le texte principal, c'est l'idée que quand on se réunit, c'est quand même favorable à recevoir l'Esprit Saint. Ce en quoi je suis bien d'accord, parce que, oui.
Mais est-ce que ces textes qui ont perduré, n'est-ce pas, dans les siècles, n'ont pas été modifiés, n'ont pas été, n'est-ce pas, triturés, repris par d'autres pour les...
Si, vous avez raison. C'est pas des récits, c'est pas des reportages.
C'est pas de qui parle. Enfin, l'Esprit Saint, c'est Dieu, oui, mais enfin...
C'est pas des reportages, si vous voulez. C'est une prédication, vous avez raison. Oui. C'est pas que ce soit bidouillé, si vous voulez. C'est que ça c'est...
Non, mais enfin, chaque génération a une façon de voir les choses différemment, déjà.
Oui. Oui, et puis on ne peut pas isoler un texte en disant « Voilà, ce texte est l'absolu et donne la clé de comment recevoir l'Esprit Saint en une leçon. » Là, il y a un exemple comme ça, et c'est le témoignage de M. Luc qui a recueilli le témoignage, de Pierre, par exemple, et puis qui a demandé aussi son avis à Barthélemy, à je ne sais pas qui. Et puis ils ont dit « c'est comme ça que je l'exprime. » Mais quand il dit « c'est comme ça que je l'exprime », c'est pas simplement qu'il a reçu des témoignages et puis qu'il en rend compte. Il a reçu des témoignages et il pense à des destinataires. Et il pense à ce que les destinataires puissent bénéficier eux aussi, finalement, du salut, en fait, du salut donné en Jésus-Christ. Donc il l'écrit pour des destinataires. Et donc la vérité de ces textes, ce n'est pas que ce soit des reportages exacts de la manière dont ça s'est passé. La vérité, c'est que l'auteur a l'intention, sincèrement, d'apporter le salut à ses lecteurs. Alors, il peut arranger les choses. C'est là, je vous dis, bon, pour les 40 jours, à mon avis, ça ne dit rien du temps entre l'ascension et entre Pâques et l'ascension et la Pentecôte. La preuve, c'est que dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, il y a à la fois Pâques, l'ascension et la Pentecôte en un seul jour, le dimanche de Pâques, en fait. Mais ce n'est pas contradictoire. C'est contradictoire au point de vue de... Ah, bonsoir. Voilà un prêtre catholique pour faire l'œcuménisme. Bonsoir. On avait besoin de toi pour faire le prêtre catholique, en fait, parce que Jérôme est...
Le prêtre aura... Nous sommes tous prêtres.
Ah, on vient d'en parler en plus.
Tous prêtres.
Mais un père oratorien qui vient nous rejoindre. Donc si vous voulez, c'est pas contradictoire. On dit, voilà, les 40 jours ou les 50 jours entre Pâques et la Pentecôte, bah, ils reçoivent l'Esprit Saint le dimanche de Pâques, donc c'est la Pentecôte avant l'Ascension. Bah, c'est pas contradictoire. Les 40 et les 50 jours, ça vient dire quelque chose qui est de l'ordre du sens. Et s'il nous le dit, bah c'est ce que j'essayais de développer avec l'histoire de la jonction avec Moïse. C'est une citation, ça convoque du sens pour qu'on puisse saisir ce salut qui est donné en Jésus-Christ. Voilà. Donc vous avez raison, ce n'est pas un reportage, c'est une prédication. Voilà. C'est une prédication. Alors, réunis tous ensemble, donc je vous dis, probablement il y avait les apôtres. Alors, la liste des apôtres, c'est toujours un peu flottant. Enfin, non, pas pour les grands apôtres, hein, Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, on est d'accord. Ensuite, bon, par exemple, des fois, il y a Nathanaël, des fois, il y en a d'autres, c'est un peu délicat. On est acte 2. Et donc, ou alors, il y avait les femmes aussi. Et donc... tout d'un coup, il y eut un bruit qui venait du ciel, comme le souffle d'un violent coup de vent. Et ensuite, c'était il apparaît comme des langues de feu. Donc c'est comme, si vous voulez, à mon avis, ça vient dire qu'il ne faut pas le comprendre non plus au sens littéral, vous voyez. C'est des comparaisons pour essayer de nous faire comprendre le truc, finalement. Voilà. Pour essayer de nous faire comprendre. Alors la maison en est remplie, toute remplie, et puis ça leur apparaît donc comme des langues de feu qui se partageaient et qui se posa sur chacun d'entre eux. Donc là, il y a quelque chose qui se dit, donc par rapport à ce que je vous disais donc tout à l'heure sur l'union tous ensemble. Là, on insiste bien pour dire que c'est pas une énorme grosse flamme qui est donnée d'un seul coup à l'assemblée, mais c'est chacun sa petite flamme en fait. Et donc c'est la personne individuelle qui reçoit l'Esprit Saint, même s'ils le reçoivent ensemble. Ça, c'est quand même intéressant, parce qu'à mon avis, si vous voulez, ça vient dire aussi quelque chose de très grand sur la valeur de la personne humaine et sur l'alliance qui est donnée en Jésus-Christ. Ce n'est pas une alliance d'abord avec un peuple particulier, c'est une alliance avec l'humanité tout entière. C'est ce qu'on voit aussi dans ce texte, hein. Mais ce n'est pas tellement une alliance avec l'humanité tout entière, c'est une alliance avec chaque personne de l'humanité tout entière. Donc c'est un intérêt fondamental à chaque individu. Et puis c'est vrai que dans nos églises, églises au sens d'institution, on est bien obligé de travailler ensemble. Et pour travailler ensemble, ben, il faut se mettre d'accord. Et donc il y a des conciles, il y a des synodes, il y a des assemblées où on vote, où on se met d'accord. Bah oui, pour travailler ensemble, il faut bien se donner, par exemple, un rendez-vous à une certaine heure pour prier ensemble. Pour être ce soir, on a bien donné une heure. Sinon, si on ne se met pas d'accord et qu'on dit « moi je vais me réunir à 18h30, moi je me réunis à 20h30 », on ne va pas se croiser quand même. Donc nos assemblées, synodes, conciles et autres, ben, en fait, ou un conseil de paroisse ou je ne sais pas quoi, ben, on vote. Et on compte sur l'Esprit Saint qui va venir éclairer le groupe. Ben oui. Mais en fait, c'est pas tout à fait comme ça. C'est Dieu, il va éclairer chacun individuellement. Bon, il y a une intelligence du groupe quand même aussi. Mais enfin bon, c'est des questions qui sont qui doivent être mises en articulation et c'est assez délicat quand même de savoir. En même temps, c'est ce que je vous disais pour Babel, en même temps il faut travailler ensemble et puis en même temps il faut que respecter le souffle prophétique de chacun. Et le souffle prophétique, on va le voir dans la suite, c'est toujours quelque chose de surprenant et de déstabilisant pour les autres. Puisque c'est quelque chose, par définition, l'Esprit Saint... c'est quelque chose de neuf. C'est ? Ah bon ?
C'est comme à l'Assemblée nationale.
C'est comme à l'Assemblée nationale. Alors, la question, c'est de savoir quel est le trouble fait ou quel est le provocateur, quel est celui qui met la zizanie ou quel est celui qui a l'esprit prophétique. C'est pour ça qu'ils font bien de compléter l'Esprit Saint. Parce qu'il y a des esprits de zizanie et de discorde aussi. On peut être prophète, c'est bien, mais on peut être faux prophète aussi. Donc, ça c'est délicat, voilà. Mais alors là, bon, ils disent c'est l'esprit saint. Alors l'esprit, bon, peut-être là c'est mal traduit le mot esprit, parce que si vous voulez, parce que esprit, ça fait penser à quoi en fait? Ça fait penser à quelque chose de l'intellect peut-être? Les choses de l'esprit, ou alors ça fait penser à un fantôme, un esprit, ça fait penser, je sais pas à quoi. Alors que bon, si vous voyez, aussi bien dans le grec que dans l'hébreu, en fait, c'est le souffle, c'est léger vent finalement qui sort de la bouche, ou qui y entre. Et donc c'est quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus ténu que ça, que, vous voyez, c'est beaucoup plus concret que l'esprit finalement. Beaucoup plus matériel dans un sens, parce qu'on peut le respirer et ça nous donne une énergie. Ça dit aussi comment marche l'esprit. L'esprit, c'est pas quelque chose qui s'empare de nous comme une possession, voyez. C'est quelque chose que l'on peut respirer et qui nous rend nous-mêmes plus vivants. C'est une inspiration, mais ça nous transforme pas en un. C'est pas une aliénation au sens où ça nous remplirait d'un autre logiciel qui serait pas le nôtre. Si vous voyez ce que je veux dire, ça donne de l'énergie à ce que nous sommes nous en vérité. Et en même temps, bon, l'esprit, on le sait, par exemple, dans le début de la Genèse, l'esprit, c'est cette présence de Dieu au ras du chaos qui met les choses en ordre et qui tout d'un coup rend la vie possible ou suscite la vie ou rend vivant le corps. Voilà. Alors aussi, ça c'est ce que dit Paul en Romains 8, c'est une prière, c'est l'Esprit qui prie en nous finalement. Mais ça ne veut pas dire que ça soit une prière, qu'on soit comme possédé par un autre esprit que le nôtre. C'est l'Esprit qui, comment dire, hein, qui donne une vie en nous et qui nous rend capable de prier, voilà, c'est ça, je ne sais pas comment dire. Mais en tout cas... On pourrait dire, alors parfois on dit ça au XXe siècle, c'est la dynamique, une dynamique d'évolution, dynamique de vie, dynamique divine, vous voyez. C'est une bonne expression peut-être pour dire ce que c'est que l'esprit. Alors ça fait penser par exemple aux béatitudes, à la première béatitude, vous savez, au début, tout à fait au début de l'évangile selon Matthieu, dans Jésus ouvre la bouche. Et il enseigne « Heureux les pauvres en esprit, car ils seront enfants de Dieu », en fait. C'est ça ? Non, car le royaume des cieux est à eux, car le royaume des cieux est à eux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ceux qui sont pauvres en esprit, c'est ceux qui ont déjà de l'esprit, en fait, qui sentent qu'ils ont l'Esprit Saint un peu, mais qui en veulent plus, et qui le demandent à Dieu comme un pauvre demande du pain aux riches, parce qu'il sait que sinon, ça ne va pas aller. Donc c'est ça qui nous est proposé, je crois, un peu par Jésus. Et là, ce texte, à mon avis, fait écho à cette thématique de Jésus. C'est encore de l'Évangile, en fait. Donc de recevoir l'Esprit, mais d'en recevoir de plus en plus. C'est-à-dire de noter qu'on l'a déjà, un peu d'Esprit Saint. Et que, comme vous dites, c'est l'Esprit qui prie en nous pour demander plus d'Esprit. C'est un peu ça. Et finalement, la prière véritable, à mon avis, qui dépasse toute prière, c'est de demander à Dieu qu'il nous donne son esprit. C'est-à-dire qu'il puisse poursuivre son œuvre de création en nous et qu'il nous rende créateurs. L'Esprit Saint, il est saint parce que c'est l'Esprit de Dieu, voilà, c'est cette dynamique d'évolution qu'est Dieu, mais c'est aussi l'Esprit qui nous rend saints, c'est-à-dire qu'il nous donne une capacité, il nous donne une créativité, il nous donne un enthousiasme pour être créateur avec Dieu, pour être à la fois prophète et roi, comme David l'était, bon, quand il était en forme, des fois il était aussi grand pêcheur, hein. Comme nous le sommes tous un peu, mais peut-être pas au point de David quand même, j'espère. Parce qu'il a fait quand même, il a fait fort. Donc ils furent tous remplis d'Esprit Saint. Alors on voit que ici c'est au passif, hein. Ils furent remplis. Alors c'est pas tout à fait passif parce qu'ils étaient quand même réunis dans la prière. Alors ils attendaient l'Esprit, on pourrait dire. Mais quand même, on n'est pas auteur soi-même de se donner de l'esprit, voilà. C'est pour ça que dans la béatitude, on demande à Dieu de l'esprit. C'est parce qu'il n'y a que lui qui peut le donner. Alors, le vent violent, ça fait penser là aussi à Élie qui, dans sa grotte, il y a un vent violent, mais Dieu n'est pas dans le vent violent. Il est dans le léger souffle de vent. Donc ça fait référence peut-être aussi un peu à ça, cet épisode. Alors ils se mettent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors peut-être, si vous voulez, c'est que le Saint-Esprit, c'est source de surprise, parce que finalement c'est la dynamique d'évolution de Dieu. Par définition, quand il y a création, par exemple pour un artiste, mais encore plus pour la création de Dieu, ben en fait c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant, c'est de l'inouï, c'est du jamais vu. Donc c'est toujours surprenant, normalement, ce que Dieu crée. Donc là, tout d'un coup, avec l'Esprit Saint, ils se mettent à parler des langues nouvelles, bon, ils n'avaient jamais pu parler comme ça, et tout d'un coup c'est une surprise, ils sont eux-mêmes surpris de ce dont ils sont capables. Alors, ensuite, bon, à Jérusalem, il y avait plein de juifs pieux, donc pieux, c'est ce qui se tiennent, en fait, c'est eux la baisse qui se tiennent dans le bien, des juifs, on pourrait dire, des gens bien, qui étaient juifs, qui venaient de toutes les nations. Alors peut-être, soit ils résidaient, peut-être qu'ils venaient pour la fête de la Pentecôte, peut-être pour en pèlerinage, hein, c'est possible aussi. Alors toutes les nations qui sont sous le ciel. Alors parfois on voit traîner dans la littérature actuelle que c'est l'apôtre Paul qui aurait inventé l'ouverture de la foi aux nations, c'est-à-dire à l'univers entier et aux athées. En fait, je ne pense pas que ce soit vrai, parce que déjà, si vous voulez, dans le programme même de l'Ancien Testament, donc de la Bible hébraïque, on dit Ancien Testament, mais ce n'est pas péjoratif au sens c'est une vieille chaussette qu'on jetterait à la poubelle. Ancien, c'est comme un meuble ancien, c'est au contraire précieux. Voilà, ou c'est comme un ancien. On le respecte parce qu'il a une sagesse que les jeunes n'ont pas, une expérience. Donc bref, dans l'Ancien Testament, il y a déjà fondamentalement cette ouverture à toutes les nations, bien sûr. D'abord par le fait qu'il y a Adam et Ève qui sont l'origine de l'humanité tout entière. Donc on est tous dans l'alliance avec Adam et Ève. Avec Noé aussi, on est tous dans l'alliance avec Noé. Aussi avec Abraham, si on a l'alliance avec Abraham. Il y a marqué qu'Abraham est béni et que toutes les nations seront bénies par lui. Il sera bénédiction pour toutes les nations. Ensuite, on peut penser aux versets qui seront cités plus loin dans les grands prophètes. L'idée que tous de toutes les nations deviendront prophètes. Donc c'était déjà compris, si vous voulez, dans l'idée même du plan divin selon l'Ancien Testament. Israël ayant une vocation particulière, une vocation particulière de manifester le nom de l'Éternel au cœur du monde. Donc c'est un peuple de témoins, c'est un peuple prêtre, qui sont, voilà, donc c'est une vocation particulière d'Israël, mais il y a une vocation de chacun, il y a une vocation de chaque nation, il y a une vocation de chaque personne, une vocation de chaque église, de chaque couple, de chaque... voilà. Donc cette universalité, non, elle est inscrite au cœur même du projet d'Israël, normalement. Alors ensuite, moi je dirais que effectivement, beaucoup de synagogues ont perdu cette vocation à témoigner dans le monde de leur sagesse et de leur foi, de leur théologie, et de la Torah, de la Bible. Et c'est bien dommage. En même temps, c'est bien compréhensible. Des millénaires de persécution, on peut comprendre qu'ils soient un peu rentrés dans leur coquille. Mais tous les juifs du monde entier ne sont pas très prosélytes, si vous voulez. On en voit quelques-uns, par exemple, on en voit quelques-uns. Moi, je me souviens, une fois, j'avais été faire je ne sais plus quoi dans le quartier de la Bourse. Et sur la place de la Bourse, il y avait un mouvement juif qui annonçait donc la Torah. J'ai vu aussi l'année dernière, au moment des fêtes des cabanes, eh ben, j'ai vu un camion sur un camion, un plateau. Il y avait une cabane avec marqué « Venez faire votre fête de Soukhot » dedans. Donc une volonté, vous voyez, de témoigner de ce que le judaïsme peut porter comme foi, comme théologie. À mon avis, voilà. Enfin bon, ensuite, je comprends hein, qu'ils soient rentrés dans leur coquille après cette fête tellement persécutée au cours des millénaires, et peut-être particulièrement au cours du siècle dernier, bien sûr. Hélas. Et encore. Voilà. Je viens de passer devant la Bourse du Commerce avec le quart de gendarmes qu'elle a en permanence pour protéger je ne sais pas quelle institution juive. C'est le bureau du CRIF, je crois. Oui, oui. Je crois que c'est le bureau du CRIF. Donc, l'ouverture à toutes les nations, bon, ça fait partie du programme, et donc nous en sommes bénéficiaires, bien entendu. Hein? Alors, il y a toute une liste de peuples, et toute une liste de... Il y a pas mal de points d'interrogation. Hein. Comment c'est possible? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est très bien. Et à mon avis, c'est le premier effet d'une prédication réussie, d'un témoignage réussi. C'est pas que les gens, tout d'un coup, connaissent la solution, c'est qu'ils se posent des questions. Et très souvent, l'évangile de Jésus-Christ, hein, quand il s'adresse à quelqu'un, c'est en lui posant des questions. Ou bien, puisque je parlais de la Genèse, quand Dieu se promène dans le jardin d'Éden, le premier dialogue, finalement, la parole adressée directement, c'est « Où es-tu ?» en fait, qui est donné, ou bien à Caïn, « Qu'as-tu fait de ton frère ?» C'est ce genre de questions, finalement, qui sont posées. Donc là, il commence à se poser des questions, et c'est pas mal du tout. Alors, comme je vous disais, chacun parle dans sa langue, et donc avec une langue unique, quelqu'un parle sa langue à lui, et les gens entendent tous dans leur langue particulière. Donc c'est une sorte de... Je ne crois pas que ce soit une langue différente, finalement. C'est une langue qui, du coup, est compréhensible de tous. Alors, vous savez qu'il y a des mouvements, ça se trouve aussi bien dans le protestantisme que dans l'Église catholique, hein, des mouvements charismatiques où il y a le parler en langue, la glossolalie. Alors, ils appellent ça des fois la langue du ciel ou la langue des anges. Mais c'est l'inverse de ça, finalement, parce que la glossolalie, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des rassemblements charismatiques, c'est assez spectaculaire dans le sens que ça se retrouve aussi dans des transes mystiques, dans différentes religions chamaniques ou voilà, des choses comme ça. Et effectivement, il y a une sorte de lâcher prise où les gens se mettent à prier dans une langue non...
attestée.
Une langue non identifiée, une langue qui n'a pas de vocabulaire ou de grammaire, si vous voulez. C'est une langue, ça ressemble à une langue, à des mots, à des phrases, mais on ne peut pas comprendre, en fait. C'est, voilà. Et donc, je pense que, oui, pourquoi pas. D'ailleurs, l'apôtre Paul, il en parle, hein, dans les lettres aux Corinthiens en particulier. Il dit pourquoi pas, parce que moi je connais des gens qui me sont très proches, qui ont pratiqué ce genre de choses et qui disent qu'effectivement ça permet une sorte de lâcher prise et donc du coup de prier sans fatigue, de prier sans se préoccuper de ce qu'on dit. Et vous disiez l'Esprit Saint qui prie en nous, c'est peut-être un peu ça si vous voulez, l'idée de dire je prie comme dans le silence finalement, sans me prendre la tête de trouver quoi dire à Dieu. Alors à ce moment-là, c'est très bien, mais l'apôtre Paul dit l'ennui, si vous voulez, c'est que comme ça ne veut rien dire, eh bien ça communique pas tellement l'évangile aux autres. Donc à la limite, en privé, pourquoi pas, dit l'apôtre Paul, ou alors sinon, ben, il faudrait que ça soit traduit, c'est-à-dire qu'on puisse y mettre du sens à ça. Ici, en tout cas, c'est pas ça dont on parle. Puisque ce n'est pas une langue que personne ne comprend, sauf à être capable d'interpréter ce qui est dit dans un langage incompréhensible. Mais c'est pile l'inverse. C'est-à-dire que c'est une langue que tout le monde comprend facilement comme étant... Ce n'est pas qu'on la comprenne, c'est qu'on l'entend comme sa langue maternelle. Donc on pourrait dire que c'est la langue du cœur, c'est la langue... voilà, c'est ce qui passe à travers un regard, peut-être, si vous voulez. Même si on ne parle pas la même langue, on peut comprendre un regard, une attitude, un geste. Voilà, je pense que c'est plutôt ça. Oui. En tout cas, je pense que si vous voulez, là aussi, ce n'est pas un reportage, et il faut le comprendre au sens d'une compréhension de l'universalisme de l'Évangile, du salut de Dieu, et puis que ça fait écho dans l'autre, finalement, l'Évangile. D'une manière profonde et assez directe. Et je pense que c'est vrai, oui. En tout cas, les gens, bon, au verset 12, là, ils étaient tous déconcertés, ils se posent plein de questions. Donc ça, c'est positif. Mais vous voyez, on parlait d'une mise en récit. Là, il y a donc, il va y en avoir 3000 qui se convertissent. Bon, il y en a un paquet qui ne vont pas se convertir, quand même. Il n'y a pas Jérusalem tout entier qui était là. Il ne faut pas exagérer, je veux dire, bon... C'est un peu exagéré. Voilà. Bon, alors tous en cœur, ils sont capables de dire qu'est-ce que cela veut dire, au verset 12. Bon, c'est peu probable. Ça, on voit ça dans les cœurs, un cœur parlé grec, si vous voulez. Il y a quelques acteurs qui forment la foule et qui arrivent à dire en cœur, ensemble, d'une seule voix, finalement, la réaction de la foule. Donc là, vous voyez que c'est une... C'est une pièce de théâtre, c'est une mise en scène de la réaction de la foule. Ça m'étonnerait que les Parthes, Mèdes et Lamites, les habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, il y a une quinzaine de nations, ils aient eu le temps de se concerter. Bon, alors on va se mettre d'accord, et puis il y a un chef de chœur, à trois, tout le monde va dire ensemble. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut vraiment le répéter pour arriver à le dire ensemble. Non, c'est pas ça. C'est, voyez, c'est exprimé comme ça pour dire... Il y en a qui sont dans une bonne interrogation, et puis d'autres qui tout de suite se moquent en disant « ils sont pleins de vin doux ». Mais ça, si vous voulez, c'est... Oui. Et puis c'est vrai que, si vous voulez, c'est bien quelque chose qu'on rencontre. Même Jésus, si vous voulez, hein, ça fait écho aussi à la prédication qu'il donne à Nazareth dans Luc 4, donc dans le premier tome, finalement, du témoignage de Luc. Jésus fait une prédication qui est beaucoup plus courte que celle de Pierre. Il lit donc Ésaïe et puis il dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie pour ceux qui l'entendent. » Voilà, c'est son homélie, sa prédication, elle dure comme ça, une petite phrase. Et puis les gens disent « n'est-il pas le charpentier? N'est-il pas le fils de Joseph? On connaît ses frères et ses sœurs, son père, sa mère, c'est pas possible qu'il soit... » Voilà. Donc c'est un peu comme ça. Il y a forcément des gens qui vont un peu se moquer. Il y a quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Bon, ben, ils vont se moquer, ils sont déstabilisés, et c'est compréhensible. Hein, quand il y a quelque chose de neuf, on a du mal, forcément. Parce que tout déplacement, toute nouveauté, ben, au début, c'est fatigant, ça demande de l'énergie, on ne comprend pas. Voilà, donc, c'est assez normal. Alors là, jusqu'à présent, on ne sait pas ce qu'il raconte, en fait. Hein. On ne sait pas. Mais Pierre, ensuite, va développer, finalement, un peu un discours, une prédication, qui n'est pas très facile, en fait. Hein. Mais quand même, on va essayer de suivre cette prédication, peut-être, si quelqu'un veut nous la lire, ou bien vous voulez que quelqu'un est volontaire pour lire, ou bien, sinon... Ah, merci beaucoup.
Alors, ce n'est pas la voix de Pierre. Il était là avec les onze. Il s'exprima en ces termes. « Hommes de Judée, vous tous qui résidez à Jérusalem, comprenez bien ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens n'ont pas bu comme vous supposez. Nous ne sommes en effet qu'à 9h du matin. Mais ici se réalise cette parole du prophète Joël. Alors, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles seront prophètes. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils seront prophètes. Je ferai des prodiges là-haut dans le ciel et des signes ici-bas sur la terre, du sang, du feu et une colonne de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Israélites, écoutez mes paroles. Jésus le Nazaréen, homme que Dieu avait accrédité auprès de vous en opérant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez, cet homme, selon le plan bien arrêté par Dieu dans sa préscience, vous l'avez livré et supprimé en le faisant crucifier par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. David, en effet, dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, car il est à ma droite pour que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur était-il dans la joie, et ma langue a chanté l'allégresse. Bien mieux, ma chair reposera dans l'espérance, car tu n'abandonneras pas ma vie au séjour des morts, et tu ne laisseras pas ton sein connaître la décomposition. » Tu m'as montré les chemins de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Frère, il est permis de vous le dire avec assurance, le patriarche David est mort, il a été enseveli, son tombeau se trouve encore aujourd'hui chez nous. Mais il était prophète et savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir sur son trône quelqu'un de sa descendance, issu de ses reins. Il a donc vu d'avance la résurrection du Christ et c'est à son propos qu'il a dit « Il n'a pas été abandonné au séjour des morts et sa chair n'a pas connu la décomposition. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, car nous tous en sommes témoins. Exalté par la droite de Dieu, il a donc reçu du Père l'Esprit Saint, remis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. David, qui n'est certes pas monté au ciel, a pourtant dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes adversaires un escabeau sous tes pieds. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait, et Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. »
Voilà, merci beaucoup. Alors au début, on voit la voix de Pierre qui était là avec les onze. Donc vous voyez que Pierre est mis à part, il dit pas... Pierre qui était là parmi les douze. Il y a Pierre avec les onze. Donc il y a Pierre et puis les onze autres. Et ça correspond effectivement à ce qu'on voit dans le début du livre des Actes, mais aussi un peu dans l'Évangile. C'est-à-dire Pierre est quand même spécial dans le groupe des apôtres. Il est un peu chaud bouillant. Donc il est le premier à témoigner de sa foi, premier ou le seul à dire bah, « Tiens, Jésus marche sur l'eau, bah, je vais faire pareil ». Le premier à dire « Moi, je trahirai pas », puis il trahit, bien sûr. Donc, si vous voulez, Parfois même, il se met au-dessus de Jésus en disant non, Jésus dit qu'il va finir par se faire arrêter et crucifier. Pierre dit non, tu te trompes, il ne faut pas que ça soit comme ça. Donc vous voyez, il était assez chaud. Quoi ? Il était naïf, il était impulsif, il était enthousiaste, il était. Alors c'est comme toujours, hein, si vous voulez, on a le défaut de ses qualités et les qualités de ses défauts, peut-être, dans le meilleur des cas. Et donc là, il est chef, hein, visiblement, il est chef de l'Église. Et donc, il y a Pierre et les onze. Ça sera comme ça, en tout cas, dans le récit des Actes, jusqu'au chapitre 12, en fait, même un peu après, ça change au chapitre 15. On le voit qu'il y a une sorte de concile de Jérusalem, où Paul se rend, parce que justement, il y a une dispute avec Pierre, en fait. On a le récit vu par Paul dans la lettre aux Galates, je crois. Et on a un récit de Luc donc dans les Actes, et on voit qu'il y a Pierre qui dit « En fait, moi je vois les choses comme ça ». Il y a Paul qui s'exprime aussi, et puis c'est Jacques, appelé frère du Seigneur. Donc, selon certains, c'est un demi-frère de Jésus, fils de Joseph, selon d'autres... ce serait un cousin, ou de selon d'autres, c'est le fils de Marie et de Joseph. Enfin, on n'en sait rien, toujours qu'il. On connaît ce Jacques, même par l'histoire, par Flavius Joseph. C'était, on dit, voilà, frère de Jésus, en fait. Et il y a un début de dynastie qui se crée, finalement. Et il va être au-dessus de Pierre, en particulier à l'occasion de ce chapitre 15 des Actes, on voit qu'il donne des ordres à Pierre et à Paul, et puis que tout le monde file doux. Donc, mais là, à ce moment du récit, c'est Pierre qui est le chef, en fait. On ne sait pas ce qui s'est passé entre les deux. Comment est-ce que Pierre est détrôné et va devenir ensuite un simple apôtre parmi les autres? On ne sait pas. Toujours est-il que là, il est le premier... Et il commence à prêcher, il s'adresse aux gens qui sont là. Alors il dit, d'abord on n'est pas sous parce qu'il est 9h du matin. Moi je ne sais pas, mais rue de l'Oratoire, les gens ils sont sous à 7h du matin le dimanche, c'est là qu'ils sont le plus sous, je ne sais pas. Mais... Donc c'est pas, moi ça ne me semble pas probant, son argument, mais... Quoi ? Ça dépend ce qu'ils boivent, et puis il n'y a peut-être pas de boîte de nuit du temps de chez Jésus, je ne sais pas, bien que, j'en sais rien. La fête, ça n'a pas dû être inventé hier non plus, hein. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, c'est son argument. Mais ici se réalise cette parole du prophète Joël, et ça, c'est passionnant, parce que, si vous voulez, c'est ce que, finalement, c'est bien la leçon de Pentecôte, hein. C'est que dans les derniers jours, alors ça, c'est intéressant aussi, parce que... dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, dit Dieu, sur vos fils et vos filles qui seront prophètes, les jeunes gens et les vieillards auront des visions et des songes. Donc, on est dans les derniers jours. C'est-à-dire qu'on est dans la fin des temps, on est dans le temps, l'heure ultime. Et donc, tout ce qui se dit dans l'Ancien Testament sur la fin des temps, sur l'ère messianique, sur le royaume de Dieu, ça s'accomplit maintenant dans notre vie. Donc ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, important à comprendre, pour arriver à comprendre aussi bien les prophètes que l'Apocalypse, finalement. L'Apocalypse, ça ne parle pas du futur, ça parle du présent sous un autre style, sous un style un peu fantastique, mais ça parle du présent, de la conversion de la personne humaine, la conversion de l'humanité, et les bouleversements que peuvent provoquer donc une conversion, c'est-à-dire une remise en cause de ce qui est mauvais en nous et de ce qui est blessé, de ce qui est souffrant, pour que puisse émerger une nouvelle façon d'être qui soit porteuse de vie, finalement. Voilà. Donc c'est bien ce qu'il dit là, il dit on est dans cette heure de la fin des temps.
Quand il est question dans certains textes des avant-derniers jours,
vous pensez à un verset particulier, peut-être c'est plus la littérature chrétienne qui parle de ça, je ne sais pas.
Peut-être dans l'Apocalypse.
C'est possible. Alors ça peut être les premiers signes, finalement, les prémices. Hein. Par exemple, Jésus dit Il y a des petites apocalypses dans l'évangile, les évangiles, et il dit, bon, ben, vous êtes capable de voir, par exemple, quand il va pleuvoir le lendemain parce que le ciel est rouge le soir, ou bien, tiens, il y a des fleurs, donc ça va être le printemps. Ben, en fait, comment vous ne voyez pas que les signes présents annoncent la fin des temps, finalement? Donc, on est dans les... Dans...
Oui, c'est ça.
Mais la difficulté, c'est qu'on n'est pas vraiment les avant, l'avant-dernier jour, parce que Jésus dit, par exemple, dans Jean 4, « L'heure vient et elle est déjà là, où ceux qui adorent le Père l'adoreront en esprit et en vérité. » Donc on est dans ce changement d'heure finalement. Donc on est pile poil la première seconde des derniers jours. Vous voyez ce que je veux dire?
Dans le présent et le futur.
Dans le déjà là et dans le pas encore. Mais il y a déjà le déjà là des derniers jours. Mmh. On est déjà dans les derniers jours. Et c'est pour ça que nous fêtons finalement... nous fêtons Dieu, nous avons le rassemblement des chrétiens se fait le dimanche, hein. C'est le huitième jour d'une semaine qui n'en compte que sept. Vous voyez ? C'est que le compteur est explosé. On est au-delà des sept jours du temps de ce monde, on est déjà dans le temps, voilà, des derniers jours, hein, d'une nouvelle temporalité. C'est ça que ça vient dire l'histoire du huitième jour, ou bien du jour du Seigneur qui est le lendemain du septième jour. C'est le premier jour d'une nouvelle semaine, c'est ce qui est dit donc dans tous les récits de résurrection qui sont le lendemain du Shabbat, en fait, le lendemain du Shabbat, le premier d'un nouveau Shabbat, nous disent les récits de résurrection donc dans les évangiles. Donc c'est ça qui nous est dit ici, que ça se réalise. Alors c'est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de question d'âge ni de sexe. Là il dit vos fils et vos filles seront prophètes, les jeunes gens, il n'y a pas question d'âge. C'est pas réservé à la sagesse des anciens, c'est même les jeunes. Et c'est pas que les jeunes, c'est les anciens aussi. Et ça, on a besoin, donc vous voyez, à l'époque, de réconcilier par rapport au sexisme et réconcilier aussi par rapport aux difficultés de compréhension des générations entre elles. Alors ensuite, mes serviteurs et mes servantes. Donc au verset d'après, au verset 18, hein, donc il insiste encore sur cette parité, finalement. Et ça, c'est quand même assez signifiant, hein, parce que c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout, mais l'Esprit-Saint est donné à tout le monde. Hein. Voilà. Et puis il n'y a pas marqué « Je répandrai sur ceux qui sont bien sages ». Vous voyez ?« Je répandrai sur toute chair ». C'est quand même assez fort, hein. C'est une promesse qui est faite. Et donc, ça imprime aussi un véritable respect des personnes qui ne sont pas en forme, peut-être aussi, pour pouvoir recueillir leurs témoignages. Alors, ce qu'annonce là Joël, ça se retrouve aussi dans d'autres passages. Hein. Donc, c'est Joël 2, 28, ou quelque chose comme ça, la fin du chapitre 2, le début du chapitre 3 du livre du prophète Joël. Ça se trouve aussi dans Jérémie 31, 31, et peut-être aussi dans Ézéchiel 36. Donc, ça se retrouve chez les grands prophètes. Alors, vous voyez les nuées ardentes dont je vous parlais tout à l'heure, on l'a au verset 19, hein, les colonnes de fumée, la terre, le sang, le feu, ça, c'est un peu la référence à l'Exode, donc on est même plus que prophète, on est donc des nouveaux Moïse. Donc c'est l'accomplissement finalement de la Pentecôte. D'ailleurs, au début du chapitre 2, hein, quand les jours de la Pentecôte arriva, en fait, c'est quand les jours de la Pentecôte furent accomplis. Et effectivement, il y a un accomplissement, vous voyez, des jours de la Pentecôte. C'est un accomplissement de la fête de la Pentecôte, la fête du don de la Torah. Il y a un élargissement qui était promis par les grands prophètes, et enfin, ça va s'accomplir. Donc, c'est pas simplement comme nous dit cette traduction, donc qui aplatit un peu les choses. Voilà, tiens, c'était la Pentecôte, mais ça pourrait tomber aussi bien le jour je sais pas quoi, d'une autre fête juive. Quelle importance ? C'est-à-dire, on vous le met comme un détail. Ben non, c'est pas un détail, c'est l'accomplissement de la Pentecôte. C'est l'accomplissement du don de la Torah, c'est quand chacun reçoit la Torah. C'est ce que dit Jérémie 31:31. Il n'y aura plus besoin de s'enseigner mutuellement. Ça, c'est aussi au début d'Ésaïe. Hein. Il n'y aura plus besoin de s'enseigner mutuellement parce que chacun connaîtra Dieu et le bien et ce qui est juste. Voilà. Donc, c'est la Torah qui est inscrite dans le cœur de chacun. C'est ça la nouvelle alliance qui a été promise et qui se réalise là, en fait. Alors, je ferai des prodiges, des signes au verset 19. C'est intéressant parce que plus tard, on nous dit que la première église, donc il y avait des prodiges et des signes. Donc, vous voyez, ils s'accomplissent à travers les actes de Dieu se manifestent à travers Jésus, hein, qui fait des miracles, des signes, c'est ce qu'il nous dit là dans sa prédication. Mais même, finalement, la première église va faire ce que Jésus faisait, de faire des miracles et des signes. Alors, c'est peut-être pas des miracles physiques de faire repousser, par exemple, une jambe qui était coupée ou je ne sais pas quoi. C'est plutôt des miracles, à mon avis, des miracles de foi, d'espérance et d'amour, en fait, hein. Parce que sinon, des miracles de guérison physique, il y en a beaucoup plus chez les cultes vaudous, chez les sectes, que le dimanche matin à Notre-Dame, en fait. Hein. C'est comme ça. Parce que si vous voulez, je crois que c'est plus des... Le vrai miracle qui est annoncé ici, c'est que chacun devienne prophète, c'est-à-dire que l'esprit de chacun soit éclairé, qu'il puisse être en relation directe avec Dieu, et que son point de vue sur le monde qui l'entoure, hein, soit un point de vue qui soit juste et vrai. C'est ça le profond miracle, c'est que même la personne la plus simple est transformée en Moïse. C'est incroyable ça comme miracle. C'est pas de guérir pour guérir, je dirais, je sais pas quoi moi, un ulcère. Il vaut mieux aller voir les médecins finalement, je pense. Bon, cela dit, pas tout à fait, parce que la foi, quand on est en forme, quand on a une foi qui est vraiment vivante, quand on a de l'enthousiasme, quand on est dans la louange, à mon avis, le corps tout entier se défend mieux contre la maladie. Et le psychique et le physique sont extrêmement liés, bien sûr, dans le corps humain. On est un corps pensant et priant, on n'est pas un esprit. Ça peut-être aussi, il faut le préciser, voilà, il fut rempli d'Esprit Saint. L'Esprit Saint, ce n'est pas versé à l'intérieur d'un corps, comme on verse de l'eau dans un vase d'argile. L'Esprit Saint, il diffuse dans l'être tout entier, il diffuse jusqu'au fond de nos cellules. C'est une manière de vivre la vie des cellules, vous voyez, ce n'est pas versé dedans. Donc, quand on est plein d'Esprit Saint, je crois que même le corps se défend mieux contre la maladie, oui, je pense, un peu. Mais ça n'empêche pas que c'est bien de se soigner. Parce que la créativité qui nous est donnée, c'est aussi d'inventer des médicaments, de savoir opérer, de savoir guérir, de savoir recoudre une plaie ouverte. Si vous voulez, il ne faut pas être idiot. Si on s'est coupé avec un couteau, bon, on a le droit d'utiliser un pansement plutôt que de continuer à se laisser saigner puis de dire « Trois Notre Père » en pensant que ça ira mieux que d'aller se faire recoudre aux urgences à l'Hôtel Dieu. Bon, il ne faut pas non plus être stupide, vous voyez. Et il ne faut pas surtout faire dire aux textes ce qu'ils ne veulent pas dire. Ces miracles et ces prodiges, oui, on peut faire des miracles, oui, on peut marcher sur l'eau, on peut guérir des aveugles, mais c'est en marchant sur l'eau du chaos du monde, l'eau de la souffrance, de nos blessures anciennes, de la haine qui surgit et qui nous prend dans notre colère. On peut marcher, on peut ouvrir les yeux des aveugles, des gens qui, du coup, ne voyaient pas de porte de sortie et tout d'un coup peuvent voir clair sur la vraie valeur de leur être, de leur vie. Vous voyez, c'est ce genre de choses, je crois, qui peut vraiment... Les miracles peuvent surgir d'une manière quotidienne. Et puis des miracles aussi, ben, par la solidarité, par l'action, par la recherche, par le... Mais... Voilà, faut pas non plus penser que Dieu serait comme un Père Noël et puis que par la puissance de notre prière, on va convaincre un Dieu indifférent de faire tout d'un coup de donner une guérison qu'il aurait refusé de donner si on l'avait pas prié. Ça marche pas comme ça. C'est un peu dangereux, si vous voulez, hein, de croire ça d'une manière magique et pas d'une manière dans la transformation de l'homme. Ça, on peut le voir, par exemple, très bien dans le début du livre des Actes, juste la page d'avant. Les apôtres disent, mais enfin, ils disent à Jésus, mais en fait, quand est-ce que tu vas établir ton règne et qu'il y aura la paix universelle sur la terre, et puis la santé, et puis plus d'injustice, plus de souffrance, plus de famine, plus de tremblements de terre qui tuent des gens, machin. Et Jésus répond, vous allez recevoir une puissance et vous serez mes témoins. C'est-à-dire que la transformation du monde pour un monde qui va mieux, qui est plus en meilleure santé, où il y a moins de famine, machin, eh bien, ça passe par la transformation, par notre propre transformation et puis par notre annonce d'une nouvelle façon d'être ensemble et avec Dieu. Alors, bien sûr, les apôtres sont un peu déçus parce qu'ils aimeraient être spectateurs du royaume qui vient et des choses qui s'arrangent. Ben non, on est participants par l'Esprit Saint. Alors, ben, c'est plus fatigant que ce qu'on espérait. Mais c'est aussi infiniment plus grand et plus beau, si vous voulez, je pense. Alors la prédication, elle porte sur Jésus le Nazoréen. Vous voyez, la traduction est intéressante parce que souvent il y a marqué Jésus de Nazareth.
J'ai hésité à dire Nazoréen.
Ben oui, mais c'est ce qui est marqué dans le texte. Alors ça, c'est toujours délicat, savoir qu'est-ce que ça veut dire, que ce Nazoréen, ça peut vouloir dire peut-être, c'était un peu des sortes de moines, en fait, qui étaient un peu ascétiques. Hein. C'est une des hypothèses. Hein. Cela dit, Jésus n'avait pas l'air particulièrement ascétique, hein. C'est-à-dire d'être dans un club de moines qui vivent d'une manière très, un peu dans le désert. Il buvait du vin, il est tout le temps à table. Même il multiplie le vin pour que la fête, le banquet de noces se passe mieux. Et aux noces de Cana, hein, dans le début de l'évangile Jean 2. Donc c'est plutôt le style de Jean-Baptiste qui lui faisait carrément moine du désert, oui, ermite du désert. Quoi ?
Il mangeait des sauterelles.
Ah, il mangeait des sauterelles, il était habillé de peau de bête. Hein. Oui, mais donc Jésus pas trop, on n'a pas l'impression. Donc peut-être, moi... Alors c'est une des lectures, moi je pense que juste il s'appelait Nazaréen parce qu'il était de Nazareth et que, vous voyez, comme disent les premiers apôtres, hein, mais qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? C'est comme disait, voilà, c'est Jésus de Maubeuge, c'est péjoratif contre les gens de Maubeuge, c'est une très belle bourgade, mais ça ne fait pas sérieux, vous voyez. Jésus il doit venir de Jérusalem, il doit venir de, je ne sais pas moi, de Tombouctou peut-être, ou de... je sais pas moi, de New York, hein, ou de Paris, qui est la plus belle ville du monde, hein, mais pas de Maubeuge. Hein. Ben si, Jésus vient de Nazareth. Ben, c'est comme ça. C'est étonnant, parce que c'est nulle part. Mais c'est comme ça. Donc, là, il a appelé Jésus le Nazaréen, ou Nazoréen, peut-être. Hein. Oui. Oui.
Ce serait pas une erreur de frappe parce que par contre le Nazaréen, dans plein de textes toujours le Nazaréen, oui, oui. Nazaréen, pourquoi tout d'un coup il devient le Nazaréen?
Mais parce que dans le grec il y a un O et il n'y a pas un A. Voilà. Donc ensuite on se tord la tête pour se dire bon pourquoi est-ce que c'est une faute de frappe?
Oui, c'est
possible. Hein. C'est possible. C'est possible.
Mais c'est pas nous qui pourrions trancher.
C'est possible, parce que si vous voulez, bon, c'est comme... Oui, oui. Ben, sauf que si vous voulez, dans les traductions moins savantes que la Tob, ils disent, ouais, bon, ça veut dire Nazaréen, et puis ils corrigent, allègrement. Ils simplifient pour qu'on ne se pose pas de questions à chaque ligne. Voilà. Mais bon, effectivement, ça pose question. Quoi ?
D'autant plus, ils sont trois à faire ça.
Ah oui ?
Il faut simplifier.
Voilà. Donc... ce qui semble être finalement les preuves qu'avance Pierre pour dire que Jésus est intéressant, aujourd'hui ça convaincrait moyennement, quoi. D'abord les miracles. Aujourd'hui les miracles c'est plutôt un problème. Les gens disent oui, bon, enfin, c'est des contes pour bonnes femmes, l'évangile, il y a plein de miracles, des aveugles qui voient, Jésus qui marche sur l'eau, tout ça, c'est des contes pour enfants. Ben, en fait non, c'est pas des contes pour enfants. On peut dire je suis pas d'accord avec Jésus, mais en tout cas on peut pas dire que l'évangile ça soit un conte pour enfants. Bon, simplement, il faut lire au deuxième degré ces récits, d'accord. Mais c'est quand même, les miracles aujourd'hui, ça pose problème quand même, plutôt ça, Parce que comme je vous disais, les miracles physiques, c'est plutôt chez les sectes que dans les bonnes que dans les églises respectueuses des individus. Donc, ça convainc personne. Ensuite, le deuxième exemple, c'est qu'il cite des psaumes. Un psaume en particulier où David annonce qu'il ne verra pas la mort. Et donc il dit, en fait, c'est pas possible parce que David a vu la mort. Hein. Et puis, que Dieu lui a promis d'être assis sur le trône, il n'est pas assis sur un trône dans le ciel, donc c'est un peu délicat. Donc, vous voyez, donc du coup, il dit, c'est David, il prophétisait pour un de ses descendants. Bon, alors, aujourd'hui, on ne serait pas convaincu, c'est par cette lecture allégorique des psaumes, d'un psaume en disant, David prophétisait en parlant de son descendant. Et c'est la preuve que du coup Jésus est Jésus, est le Christ. Mais c'était bon, on s'adressait à... Pierre s'adresse à des collègues juifs qui sont habitués à cette lecture allégorique de l'Écriture, ce qui n'est pas inintéressant d'ailleurs, parce que ça montre dans le texte, c'est intéressant plutôt pour... pas pour répéter ce genre de prédication, qui était donc très contingente, qui est liée au milieu auquel s'adresse Pierre, mais pour voir comment est-ce qu'il lisait l'Écriture. C'est intéressant pour apprendre à la lire à notre tour. Pas forcément pour faire cette même lecture, cette même prédication. En tout cas, il y avait... Vous avez livré ce Jésus, vous l'avez supprimé en le faisant crucifier, mais Dieu l'a ressuscité, donc il y a le Dieu qui est le renversement des situations, et finalement, les miracles, les signes, c'est un peu ça aussi. C'est ce retournement de situation que Dieu permet... C'est ce qui est chanté aussi dans le Magnificat par Marie. Les puissants qui deviennent petits, les morts qui deviennent vivants, les serviteurs et les servantes qui deviennent prophètes et même Moïse. C'est ce Dieu de la nouveauté et des renversements. Et donc, c'est finalement à ça qu'il veut en venir et qu'on aura dans la suite finalement de ce qu'on va lire peut-être parce que ça me semble plus intéressant que finalement cette prédication qui est difficile à comprendre pour nous aujourd'hui, peut-être plus dans peut-être les premières conversions qu'on va pouvoir suivre, je pense, si on lit la suite maintenant. Si quelqu'un veut nous le lire, sinon je vais me porter volontaire. Donc, les premières conversions. Le cœur bouleversé d'entendre ces paroles, ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Que ferons-nous, frères ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car c'est à vous qu'est destinée la promesse, et à vos enfants, ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles, Pierre rendait témoignage et les encourageait. « Sauvez-vous, disait-il, de cette génération dévoyée. » Et ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême, et il y eut environ 3000 personnes ce jour-là qui se joignirent à eux. Ça, c'est efficace comme prédication. Alors leur cœur, il est profondément donc traversé par ces paroles. Alors le cœur, c'est pas simplement le lieu des sentiments, c'est le lieu de tout l'être, le lieu de la décision, qui est bouleversé. Et il pose une question, que ferons-nous? Alors c'est une bonne question, c'est de se sentir concerné par la parole, vous voyez, pas simplement pour entendre un discours théologique, mais qu'il y ait une remise en cause vraiment de leur façon d'être et de faire. Et c'est ce que répond Pierre, il leur dit « convertissez-vous ». Alors « convertissez-vous », ça peut faire un peu, ça peut faire un peu moraliste peut-être, non, mais c'est pas ça, c'est plutôt un changement de mentalité, un changement de perspective dans leur existence, un changement de façon d'être aussi peut-être. Peut-être que la vraie question, c'est de se préparer à un cheminement. Et donc moi, je suis toujours très touché quand je vois des gens qui découvrent la foi chrétienne, par exemple, qui étaient athées avant, ou qui étaient, je ne sais pas, du, qui était philosophe ou qui, et qui tout d'un coup avance, c'est-à-dire tout d'un coup s'ouvre à la foi. Il y a vraiment là une énergie, un courage qui, à mon avis, était vraiment très touchant et sur lequel nous, enfin, je dirais, nous pouvons, chaque jour de notre existence, tirer un bon exemple. C'est ce courage d'évoluer. Alors, cette confiance, elle vient du fait, effectivement, qu'on sait que Dieu est source de vie, source de résurrection, et donc ça nous encourage à nous tourner vers lui et accepter de faire des pas de plus, peut-être, dans ce changement profond de mentalité. Ensuite, il va dire que chacun reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça, c'est exactement la prédication de Jean-Baptiste, en fait. Donc, il n'y a rien de très neuf. La seule chose neuve, peut-être, c'est que le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Sinon, c'est vraiment le baptême de Jean-Baptiste, baptisé pour le pardon des péchés, ou on peut traduire autrement, je préférais baptiser dans le pardon des péchés. C'est-à-dire qu'on est plongé dans la grâce de Dieu, dans le pardon de Dieu, et donc du coup on sent qu'on n'a plus rien à craindre de Dieu, et du coup on peut se réconcilier avec Dieu, c'est-à-dire ouvrir son cœur largement, du coup accepter de penser par soi-même, d'avoir une opinion, d'avoir un point de vue sur le monde comme un prophète, parce qu'on sait que si on se trompe un peu, ben en fait on est quand même aimé, guidé par Dieu, et donc on s'ouvre à l'Esprit Saint sans crainte d'être grillé finalement par cette dynamique de Dieu, comme il peut vouloir griller ce qui est mauvais, mais au contraire, on va toujours être irrigué, nourri, accompagné, soigné par cet Esprit Saint. Voilà. Alors, au nom de Jésus-Christ, nous, on ne baptise pas au nom de Jésus-Christ, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, pour les trinitaires, ils disent, ben voilà, le nom de Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu, c'est à la fois puisque, hein, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Probablement, si vous voulez, la formule trine, c'est pas une formule trinitaire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est une formule trine. On ne dit pas que le Père, le Fils et le Saint-Esprit font un seul et même Dieu. Ça, c'est un développement qui vient beaucoup plus tardivement. Ça vient pas, en tout cas avant la fin du IIe siècle, je pense. Au début, sans doute, ils baptisaient au nom de Jésus, ou au nom de Jésus-Christ. Et puis progressivement, ensuite, eh bien, ils ont mis cette formule trine qu'on voit très tôt quand même apparaître, bien avant le développement de la doctrine trinitaire, qui est déjà une pensée beaucoup plus élaborée sur Dieu, sur la personne du Christ, sur ce que c'est que l'Esprit-Saint. À cette époque-là, c'était une formule plus simple. C'était encore le baptême de Jean-Baptiste qui est repris, et simplement qui est fait au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Christ bien sûr, c'est pas le nom de famille de Jésus, Jésus-Christ c'est déjà une confession de foi, c'est la confession de foi la plus courte et peut-être la meilleure. Jésus est le Christ, c'est-à-dire il est le Messie, il est le Sauveur avec un S majuscule, il est celui qui, par qui une nouvelle étape dans la création a lieu. C'est ça que finalement nous disent les prophètes qui disent, voilà, vous serez tous prophètes, c'est l'annonce d'une deuxième étape dans la création. Il y a la première étape de la création du monde, de la création de l'humain, et la deuxième étape, c'est en Jésus-Christ qu'à ce moment-là, il y a une humanité qui est appelée à devenir, parce qu'on est dans cet entre-deux, qui devient prophétique, qui devient une humanité réconciliée avec Dieu. Vous allez me dire, il y a encore du travail, surtout en ce début du XXIe siècle, où il y a quand même une ambiance un peu lourde. Mais oui, c'est vrai, mais néanmoins, cette promesse, elle est pour chacun et pour chacune et pour l'humanité d'être réconciliés ensemble et réconciliés avec Dieu par le Christ. Je le pense fermement. Voilà. Alors, le baptême, c'est vrai qu'au début, c'était encore le baptême de Jean-Baptiste, un baptême de conversion. Et il annonce le baptême du Saint-Esprit, finalement, ce qu'annonçait le don du Saint-Esprit, ce qu'annonçait déjà Jean-Baptiste. Moi, je vous baptise d'eau, lui vous baptisera d'Esprit-Saint. On sait que Jésus ne baptisait pas d'eau, c'est ce que nous dit l'Évangile selon Jean. Mais progressivement, on va le voir dans le cours même du livre des Actes des Apôtres, Les familles entières sont baptisées, alors que les enfants ne se sont pas convertis. Donc il ne faut pas le comprendre linéairement comme ça. Le baptême d'eau, c'est un baptême de fin d'une vie ancienne, début d'une vie nouvelle. Bon, c'est un baptême d'adulte pour se marquer cette conversion, ce changement. Le baptême des bébés, ça vient plus remplacer la circoncision. Très rapidement, la circoncision va être remplacée par le baptême chez les chrétiens comme signe de l'alliance. Mais finalement, comme la circoncision, c'est une alliance unilatérale, c'est une alliance de la grâce de Dieu, parce que le bébé, il est circoncis, donc il est marqué comme étant, comme faisant partie, le bébé garçon, comme faisant partie de l'alliance avec Dieu, par le signe de la circoncision. Donc c'est un beau signe, parce que le bébé, il ne s'est pas encore converti, il n'a pas encore confessé la foi, et pourtant il reçoit déjà le signe de l'alliance. Donc c'est vraiment le signe de la grâce, que Dieu unilatéralement reconnaît un bébé comme étant son enfant, étant au bénéfice du salut qui est manifesté par Jésus-Christ. Alors, s'ils ont remplacé la circoncision par le baptême, c'est parce que d'abord, vous voyez, on a ici un féminisme qui est quand même appuyé. Les fils comme les filles vont pouvoir être prophètes. Alors l'ennui, c'est que pour des raisons purement anatomiques, il n'y a que les garçons qui peuvent recevoir le signe de la circoncision. Du coup, c'est fâcheux. Dans cette façon de voir, si vous voulez, la nouvelle alliance. Alors que le baptême, tout le monde peut le recevoir. En plus, si vous voulez, l'idée qu'on doive retrancher quelque chose de notre corps, je pense que ça a pu paraître choquant dans cette vision aussi positive de l'humain, si vous voulez. L'humain, il est créé bon par Dieu, il est créé saint par Dieu, et donc il est bon tel quel. Il n'y a rien à retrancher, il y a juste à ajouter une dimension d'Esprit Saint qui va dynamiser finalement ce que nous sommes. Mais il n'y a pas à enlever quelque chose de notre être, il n'y a pas à perdre notre personnalité. Donc vous voyez, le signe de la circoncision a été abandonné très rapidement pour avoir le signe du baptême qui était donné aux enfants comme aux adultes. Mais qui est alors plus un signe ici comme le lavage de notre péché, de la vie ancienne ou d'une souillure du corps, mais c'est plutôt le signe de la grâce de Dieu que l'Esprit nous est promis finalement. Alors ensuite, là ça peut sembler automatique, vous vous convertissez, vous êtes baptisé, alors vous recevrez l'Esprit Saint. En fait, dans le livre des Actes, on voit que le baptême n'est pas indispensable à recevoir l'Esprit. Par exemple, il y a l'eunuque éthiopien, il reçoit d'abord l'Esprit, c'est ça? Non, c'est plutôt avec Corneille. La famille de Corneille, ils reçoivent l'Esprit Saint, alors ils disent, puisqu'ils ont reçu l'Esprit, maintenant on peut bien les baptiser. Vous voyez, donc ça peut être dans l'autre sens. Ensuite, est-ce que c'est automatique de baptiser, recevoir l'Esprit? Je ne pense pas que c'est automatique, en fait. Ce n'est pas magique, bien sûr. Le baptême est un signe qui est donné, un signe de la grâce de Dieu et de la promesse de l'Esprit. Si ensuite les gens n'en ont rien à faire, ils sont fermés à l'Esprit et Dieu, malgré toute sa puissance, ne pourra pas forcer quelqu'un ni à aimer, ni à être libre. Ça ne marche pas comme ça. On le sait bien, quand on éduque des enfants, on fait ce qu'on peut. Bon, cela dit, oui.
J'ai entendu dire que cette année, à la Trinité, à l'église de la Trinité, trois adultes, trois femmes, vêtues de blanc, de la tête aux pieds, ont été mises entièrement pour leur baptême, devant toute l'église, dans un bassin.
À plonger, oui.
Plonger, tête comprise. Alors, elles sont sorties ruisselantes de là, elles sont allées à la sacristie, il paraît qu'elles sont venues avec un brushing formidable, on a vu
D'accord.
Séchées leurs cheveux, mais c'est la première fois que j'entends dire ça.
Alors il y a beaucoup d'églises où... Alors il y a beaucoup d'églises, en fait, des églises évangéliques particulièrement, baptistes, je ne sais pas, qui font un baptême par immersion. À mon avis, c'est plus quand même le baptême de Jean-Baptiste. Parce que c'est l'idée qu'on est noyé à la vie ancienne et qu'on ressuscite dans une nouveauté de vie. C'est ce qu'on voit dans le discours, par exemple, de l'apôtre Paul, dans, je sais pas, Romains 6, par exemple. Voilà. On est mort, crucifié avec le Christ, et on est ressuscité dans une nouveauté de vie avec lui. C'est l'idée d'une mort et d'une résurrection avec le Christ, et puis d'un lavage du péché originel dans l'eau du baptême. Moi, à mon avis, si vous voulez, Le baptême qu'on pratique dans l'Église catholique en général et puis dans notre Église protestante, c'est quand même, si on le fait par aspersion et non pas par immersion, c'est pour dire que finalement l'Esprit Saint, c'est pour dire ce baptême, cette promesse d'Esprit Saint. C'est-à-dire que la question du pardon, c'est déjà réglé finalement. De toute façon, Dieu est amour, c'est même au-delà du pardon. C'est pas la question de l'amnistie des fautes ou de laver le péché originel ou je ne sais quoi, comme si Dieu gardait une rancune d'un péché de gourmandise qu'aurait commis des ancêtres lointains. C'est pas pensable. Donc c'est pas ça. C'est plutôt l'idée qu'on reçoit quelque chose comme l'eau qui tombe sur le désert et qui fait fleurir le désert. C'est plutôt Dieu qui ajoute par sa grâce, par sa bénédiction, par son Esprit Saint, ajoute une dimension supplémentaire qui révèle le meilleur de nous-mêmes. C'est pour ça qu'on baptise par aspersion. Ben, ça n'insiste pas sur la même chose. Alors, cela dit, si vous voulez, c'est une pédagogie différente qui insiste sur tel ou tel point. Cela dit, on est d'accord sur le processus. Pour qu'il y ait alliance complète et vraiment féconde, il faut que Roméo aime Juliette et que Juliette aime Roméo. Voilà. Et donc, Dieu nous aime, c'est la grâce de Dieu, et puis que nous, on aime Dieu et qu'on s'ouvre à... Voilà, et qu'il y ait une articulation qui se fasse entre Dieu et nous, par une alliance, une bénédiction mutuelle. Donc, on est d'accord sur le fond, si vous voulez, avec ça. Sauf que, sur quoi on met l'accent? Si on fait le baptême par aspersion de tout le monde, bébé comme adulte, on va insister sur la grâce de Dieu, donc sur ce oui de Dieu sur la personne. Cela dit, ça appelle une conversion, une ouverture à Dieu, et puis une profession de foi, ce qu'on peut appeler une confirmation dans nos églises. Donc on est d'accord sur le processus. Les autres églises, elles disent, bon, l'amour de Dieu est premier, on est bien d'accord. Ça, qui nous reconnaissent comme son enfant unilatéralement, on est bien d'accord. Cela dit, l'alliance complète, elle est conclue quand il y a l'aller et retour. Donc nous, on va insister plus sur la foi de l'homme que sur la grâce de Dieu. Parce que la grâce est première, elle est donnée de toute façon, donc n'insistons pas là-dessus. On va faire une pédagogie plus menaçante en disant, c'est une question de vie ou de mort, que vous vous convertissiez, qu'il y ait la foi. Et on va insister donc plus sur la foi de l'homme que sur la grâce de Dieu. En disant, si vous ne vous convertissez pas, vous êtes mort, perdu à jamais. Alors que dans nos baptêmes, on annonce plus la grâce de Dieu. On dit, ben, ça vaut mieux qu'il y ait cette ouverture à la grâce, parce que du coup, on va en vivre, et qu'on va en vivre vraiment, et puis qu'à travers notre action, peut-être qu'on va rendre le monde plus beau. Mais on insiste sur la grâce de Dieu, première, fondamentale, et voilà. Donc ça dépend sur quoi on insiste. Mais sur le programme complet, on est bien d'accord quand même. Donc ça va. Mais moi, je préfère effectivement baptiser par aspersion. Je trouve que ça insiste plus sur la grâce et que moi, c'est ça fondamentalement. Je trouve que la pédagogie de la peur, insister sur la nécessité de la conversion, de l'ouverture, de la foi, de machin, c'est efficace parce que du coup, les gens se disent « Oh, il faut quand même que je fasse attention. » Mais c'est efficace. Ça a une efficacité. Ça remplit les bancs de l'Église, plus que de dire « de toute façon, Dieu nous aime de toute façon ». Mais je pense que ça vient perturber, si vous voulez, cette sincérité de l'ouverture du cœur à Dieu, de l'accueil à Dieu. Voilà. Et du coup, ça vient quand même parasiter par notre peur, notre crainte. Et ça, c'est quand même bougrement dommage, vous voyez. Mais enfin, je ne sais pas. Et donc, finalement... ils étaient assidus dans la première communauté. Je pense qu'on peut s'arrêter là, ça suffit en fait. On a vu à peu près l'essentiel en arrivant jusqu'à donc cette conversion en masse. Ben, ce qu'on peut voilà, espérer, souhaiter et puis préparer avec aussi le témoignage que nous pouvons avoir auprès de nos proches. Alors l'année en fait est finie donc avec ce groupe biblique œcuménique. J'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine, au mois d'octobre. On va choisir un programme et une date avec Jérôme, avec l'église Saint-Eustache et l'Oratoire du Louvre. Si vous avez des idées de thèmes, de sujets qui vous intéresseraient, n'hésitez pas à nous envoyer un message à Jérôme, à moi, pour qu'on choisisse un thème pour l'an prochain. Donc, merci beaucoup. Je crois que Saint Eustache nous a préparé un petit pot. Donc, on va pouvoir partager dans la joie. Donc, merci.